14 degrés.
FM 93, ce midi.
Hier, à pareille heure, on vous parlait de deux dossiers qui concernent la Ligue de hockey junior majeur du Québec. D'abord, cette histoire d'initiation qui aurait été dénoncée par un joueur d'origine russe. Le Phoenix de Sherbrooke est en train de faire ses vérifications par rapport à ça. On aura des nouvelles au cours des prochains mois. Il y a également une action collective qui a été autorisée envers la LHJMQ. Il y a des joueurs qui réclament 50 millions de dollars à la Ligue. Question de les dédommager, comme ils ne suivent pas le code du travail à l'heure actuelle. Et du côté de la LHJMQ, on nous a dit, hey, on a quelqu'un chez nous qui s'occupe de rendre les services aux joueurs. Son poste est celui de directrice service aux joueurs pour la LHJMQ. C'est une ancienne policière de la GRC qui occupe ce poste-là depuis maintenant 10 ans, depuis sa création. On va la joindre à l'instant, c'est Natacha Lorenz. Bonjour, Mme Lorenz.
Bonjour.
Quel est votre rôle au juste?
En fait, mon rôle, je suis responsable un peu de l'encadrement hors glace. Donc, bien sûr, je fais le suivi au niveau de l'encadrement scolaire des joueurs. Je suis aussi responsable du programme antidopage et du programme d'aide aux joueurs, qui est un programme justement qui a été mis en place il y a une dizaine d'années pour mieux prévenir certaines situations problématiques, mais aussi bien sûr pour accompagner les joueurs quand ils vivent certains problèmes, quand ils ont des épreuves à relever. Donc on est là pour les conseiller ou les référer vers des ressources qui pourraient les aider là, dépendamment de la problématique auquel ils sont exposés.
OK. Doit-on considérer les joueurs de la LHJMQ comme des étudiants athlètes ou comme des athlètes étudiants?
Ben, en fait, ce sont des étudiants athlètes parce que plusieurs d'entre eux sont même à temps plein aux études, dépendamment évidemment de l'endroit où ils évoluent. Maintenant, l'école est obligatoire dans la Ligue quand même depuis plusieurs années. C'est pas rare que les joueurs sortent de la Ligue avec un diplôme en poche, que ce soit un diplôme d'études collégiales ou bien sûr, bon, on a des joueurs qui sont au high school, donc souvent ils obtiennent leur grade 12 puis par la suite poursuivent leurs études universitaires. Oui. Et évidemment, on les encourage par la suite, après leurs années dans la Ligue junior majeure du Québec, à poursuivre leurs études parce qu'il y a un programme de bourse aussi qui est rattaché. Donc, ils partent pas sans rien, là. Ils peuvent aller jusqu'à 30 000 $ en bourse d'études pour payer soit leurs études universitaires, poursuivre des études collégiales ou même des études professionnelles.
Ça, c'est en cours de mandat ou en cours de carrière dans la LHJMQ qui vont mettre l'argent,
oui,
la main sur cet argent-là?
Ben, en fait, oui. Pendant qu'ils évoluent dans la Ligue, à chaque session, ils accumulent des montants d'argent. Donc, dépendamment le nombre d'années qu'ils vont jouer dans la Ligue, ils vont être capables d'aller chercher un certain montant. Bien sûr, pendant qu'ils évoluent dans la Ligue aussi, les études, tout est pris en charge par les équipes. Donc, tout est payé, que ce soit les livres, les stationnements, les frais de cours. Tout est pris en charge par les équipes.
Puis comment vous assurez que les jeunes sont bel et bien en selle dans leurs études? Est-ce que c'est seulement les bulletins que vous vérifiez ou est-ce qu'il y a quand même un encadrement en cours de saison?
Ah non, il y a un encadrement en cours de saison. Chaque équipe a un conseiller pédagogique. Donc moi, c'est un peu mon lien parce qu'on a 18 équipes quand même réparties sur un large territoire. Donc, okay, le conseiller pédagogique, qui pour la plupart proviennent du milieu de l'éducation, est mon lien direct avec l'équipe. Évidemment, je suis en contact aussi avec les joueurs aux besoins. On a des partenariats, entre autres, avec Alliance Sport Études, avec le cégep à distance, avec différentes institutions scolaires dans les régions ou dans les villes où évoluent les équipes. On a évidemment d'autres partenariats quand on doit répondre à des besoins pour des joueurs qui doivent étudier à distance, que ce soit avec Athabasca, l'Université Athabasca, ou même d'autres institutions en Ontario ou dans les Maritimes. Donc, bien sûr, on essaie de bien s'entourer pour bien répondre aux besoins des joueurs. Mais oui, on demande les horaires de cours au début de chaque session. On suit l'évolution, justement, soit avec les dirigeants des institutions scolaires, pour voir un peu comment les joueurs progressent. Oui, par la suite, on vérifie les relevés de notes. Okay. On a quand même des taux de réussite très intéressants. Si on regarde juste au niveau collégial, on a des taux de réussite qui tournent autour de 86%. Au secondaire, c'est autour de 98%. Au high school, 96%. Donc, quand même, on a de très, très bons résultats scolaires là, pour des jeunes qui, oui, doivent passer beaucoup de temps, doivent consacrer du temps là à leur forme. Et on essaie justement de les aider à combiner le sport et les études, ce qui est selon moi très important parce que ça amène un équilibre aussi chez l'individu, de pas juste avoir le hockey dans la tête. Donc, en allant aux études, bien sûr, il peut sortir du hockey puis se consacrer à d'autres choses. Ça leur prend aussi un plan B, parce que malheureusement, on aimerait ça qu'ils jouent, qu'il y en ait un peu plus qui jouent au niveau professionnel, ouais. Mais on sait que le pourcentage est faible, donc on les encourage, bien sûr, à avoir un plan B. Même les carrières sont très courtes, donc par la suite, ça peut leur servir. Donc, même des joueurs qui, parfois, atteignent les niveaux professionnels, ils vont même poursuivre des études, vont continuer à prendre des études à temps, des cours à temps partiel pour quand même s'avancer dans leurs études. Donc, on essaie vraiment de leur fournir un encadrement qui reste sain pour un individu, pour justement mettre, autant les développer sur le plan hockey, mais autant en faire aussi des bons citoyens.
Donc, ce que vous nous expliquez en résumé, c'est que l'encadrement, peut-être qu'ils ne reçoivent pas de salaire, mais ils reçoivent un encadrement qui pourrait leur coûter beaucoup plus cher s'ils avaient à le payer de leur propre poche.
Ah, tout à fait, parce que tout est pris en charge. Quand ils font partie d'une équipe, ils sont logés, ils sont nourris, tous les équipements sont payés, tous les comme je disais, les frais de scolarité sont payés. Donc, ils n'ont pas beaucoup. Bon, bien sûr, ils ont beaucoup de matchs, des entraînements, pas souvent des temps de sortie parce qu'ils ont des couvre-feux, donc ils n'ont pas tout le temps l'occasion non plus de pouvoir sortir. Non, je connais pas. C'est sûr que c'est malheureux de voir qu'il y a des joueurs peut-être qui considèrent que ils ont été traités injustement. Ouais. Mais je n'ai pas eu l'occasion de parler à ces joueurs. Mais je peux vous dire par contre qu'il y en a beaucoup que pour qui ça a été une très belle expérience de jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, parce que c'est une belle école de vie. Puis souvent, ils vont chercher des qualités, ils vont par la suite peuvent leur servir plus tard dans un autre métier, dans un autre travail ou dans la vie de tous les jours.
L'argument de la LHJMQ et on peut lire également de d'autres ligues de hockey qui font face à une action collective de la sorte ailleurs au Canada, c'est dire il y a des marchés qui ne survivront pas. Mais est-ce que la LHJMQ est prête à ouvrir ses livres pour montrer et prouver à ces gens qu'il y a effectivement des marchés qui ne survivront pas si éventuellement il y avait un salaire qui était versé?
Ça, je vous dirais, je suis pas la meilleure personne pour vous répondre là-dessus. Je pense que ce serait plus le commissaire qui pourrait vous répondre par rapport aux chiffres, parce que je suis pas au courant de tous les chiffres par rapport aux différentes équipes et même par rapport à ceux de la Ligue. Mais oui, effectivement, ça, c'est certain que ça affecterait. On s'entend que bon, il y a des équipes qui sont moins bien nanties que d'autres, puis qui n'ont pas nécessairement les mêmes revenus. Donc oui, ça serait problématique, ça serait triste parce que si ça arrivait, ben il y aurait moins de possibilités pour des jeunes de pouvoir poursuivre, justement, s'il y a moins d'équipes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de pouvoir poursuivre leur développement hockey. Donc, c'est sûr que bon, on veut pas en arriver encore à penser à ça, mais on est quand même pris compte tenu du recours collectif. C'est des choses qu'on doit quand même prendre en considération.
OK. Madame Lorenz, quand il y a des problématiques, quand il y a un joueur qui veut faire cheminer une plainte, de quelle façon ça fonctionne à la LHJMQ, par exemple avec une famille d'accueil ou lors d'initiation? S'il veut dénoncer une situation, comment ça marche?
Enfin, on a un programme d'aide aux joueurs à la Ligue, mais on leur offre aussi d'autres sources, parce qu'on veut pas justement, parce qu'ils disent, si j'appelle à la Ligue, ça demeure la Ligue. Donc, ouais. Chaque année, quand même, en début de saison, il y a entre autres une vidéo d'intégration qui leur présente différentes ressources vers lesquelles ils peuvent se tourner. Mais oui, la Ligue en fait partie. On a un numéro sans frais où les équipes ou les joueurs, membres du personnel ou autres, familles de pension, peuvent appeler. À ce moment-là, c'est confidentiel, l'intervention est confidentielle, donc on va écouter ce que le joueur ou ce que le membre du personnel a à nous dire, et puis on va voir par la suite quel genre d'intervention on doit faire. Est-ce qu'on doit le référer à un psychologue? Est-ce que on doit faire une intervention directe si c'est un conflit au sein de l'équipe, parce qu'il doit y avoir un médiateur? On parle de la situation, on y va toujours étape par étape, bien sûr. Le joueur a l'opportunité de se référer ailleurs, des organismes comme justement Sportaide qui existent là, maintenant depuis quelques années, okay. Tel jeune ou autre. On leur donne toutes ces ressources parce que justement, on ne veut pas qu'ils soient démunis. On est conscient quand même qu'on a des jeunes de 16-20 ans qui sont comme en transition entre l'adolescence et le jeune adulte. Ils n'habitent plus chez leurs parents pour la majorité. Donc, on s'assure de leur donner un encadrement de qualité et de leur offrir des ressources, justement, s'il y a quoi que ce soit, s'ils ont un besoin de parler ou s'ils se considèrent traités injustement, mais justement qu'ils puissent se retourner vers des ressources.
Si les problèmes sont au sein de l'équipe, là, s'il y a des problématiques à dénoncer et qu'ils décident de passer par la Ligue directement plutôt que de passer au sein de l'équipe, est-ce que vous allez avertir l'équipe? Parce que je me mets dans la peau d'un joueur qui vit certaines problématiques avec du personnel, par exemple. Tu peux pas te ramasser benché ou sur le quatrième trio, là. Il y a une raison pour laquelle tu passes par la Ligue. Est-ce que l'information circule directement via l'équipe dans ce temps-là?
Mais en fait, si un joueur appelle à la Ligue, jamais on va faire une intervention auprès de l'équipe sans le consentement du joueur.
Okay.
Donc, il faut qu'on ait son autorisation. D'ailleurs, on a un formulaire auquel il nous autorise de transmettre des renseignements personnels, de communiquer avec l'équipe, mais jamais on va le faire à l'insu du joueur. Donc, puis à chaque fois qu'on va faire la démarche, on va lui expliquer qu'est-ce qui va se passer, parce que bien sûr qu'un joueur, souvent, va avoir peur de représailles, va avoir peur par la suite d'être échangé ou autre. Donc, mais du moment, au contraire, tu sais, du moment que la Ligue est informée, nous, on s'assure que ce genre de choses ne se produisent pas. C'est-à-dire que si on n'est pas au courant de la situation, ben malheureusement, on ne peut pas intervenir si justement le joueur est échangé ou autre, parce que on ne sait pas ce qui se passe dans l'équipe. Donc, on encourage beaucoup plus un joueur à parler s'il y a un conflit avec d'autres coéquipiers ou s'il y a un conflit avec un membre du personnel pour justement, parce que des fois ça peut être une question de perception, de mauvaise interprétation des choses. Donc souvent on a réglé bien les problèmes juste à une médiation, en écoutant les deux versions. Puis autant d'un côté comme de l'autre, on voyait là qu'il y avait eu peut-être c'était pas clair, c'était pas il y avait un problème de communication. Donc c'est à ce moment-là qu'il y avait possibilité d'améliorer des choses, parce que là le dialogue était ouvert et il permettait justement autant à une partie comme à l'autre partie de s'exprimer là, sur la situation.
OK. Merci beaucoup pour les mises au point et les précisions des dernières minutes, Mme Lorenz.
Ça me fait plaisir.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Natacha Lorenz.